Jules Michelet, Jeanne d'Arc. Enfance et vocation de Jeanne. Ce qui fait de Jeanne d'Arc une figure éminemment originale, ce qui la sépare de la foule des enthousiastes qui, dans les âges d'ignorance, entraînèrent les masses populaires, c'est que ceux-ci, pour la plupart, durent leur puissance à une force contagieuse de vertige. Elle, au contraire, eut action par la vive lumière qu'elle jeta sur une situation obscure, par une force singulière de bon sens et de bon cœur. Le nœud que les politiques et les incrédules ne pouvaient délier, elle le trancha. Elle déclara, au nom de Dieu, que Charles VII était l'héritier. Elle le rassura sur sa légitimité dont il doutait lui-même. Cette légitimité la sanctifia, menant son roi droit à Reims et gagnant de vitesse sur les Anglais l'avantage décisif du sacre. Il n'était pas rare de voir les femmes prendre les armes. Elles combattaient souvent dans les sièges, témoins les 30 femmes blessées à Amiens, témoins Jeanne Hachette. Au temps de la Pucelle et dans les mêmes années, les femmes de Bohême se battaient contre les hommes dans les guerres des Hussites. L'originalité de la Pucelle, je le répète, ne fut pas non plus dans ses visions. Qu'il en avait au Moyen-Âge. Même dans ce prosaïque XVe siècle, l'excès des souffrances devait singulièrement exalter les esprits. Nous voyons à Paris un frère Richard remuer tout le peuple par ses sermons, au point que les Anglais finirent par le chasser de la ville. Le carme breton Connecta était écouté à Courtrai, à Arras, par des masses de 15 ou 20 000 hommes. Dans l'espace de quelques années, avant et après la Pucelle, toutes les provinces sont leurs inspirées. C'est une Pierrette bretonne qui converse avec Jésus-Christ. C'est une Marie d'Avignon, une Catherine de La Rochelle. C'est un petit berger que Saint-Trail amène de son pays, lequel a des stigmates aux pieds et aux mains, et qui sue du sang au Saint-Jour, comme nous voyons aujourd'hui la Béate du Tyrol. La Lorraine était, à ce semble, l'une des dernières provinces où un tel phénomène dut se présenter. Les Lorrains sont braves, batailleurs, mais volontiers intrigants et rusés. Si le grand Guise servit la France avant de la troubler, ce ne fut pas par des visions. Nous trouvons de Lorrains au siège d'Orléans et tous deux y déploient le naturel facétieux de leur spirituel compatriote Callot. Là est le canonnier, maître Jean, qui faisait si bien le mort. L'autre est un chevalier qui fut pris par les Anglais, chargé de fer, et qui à leur départ revint à cheval sur un moine anglais. La Lorraine des Vosges a, il est vrai, un caractère plus grave. Cette partie élevée de la France, d'où descendent de tous côtés les fleuves vers toutes les mers, était couverte de forêts, forêts vastes et telles que les Carlovingiens les jugeaient les plus dignes de leurs chasses impériales. Dans les clairières de ces forêts s'élevaient les vénérables abbayes de Luxeuil et de Remiremont. Celles-ci, comme on sait, gouvernées par une abbesse qui était princesse du Saint-Empire, qui avait ses grands officiers, toute une cour féodale qui faisait porter par son sénéchal l'épée nue devant elle. Cette royauté de femmes avait eu pour vassal et pendant longtemps le duc de Lorraine. Ce fut justement entre la Lorraine des Vosges et celle des Plaines, entre la Lorraine et la Champagne, que naquit à Don Rémy la belle et brave fille qui devait porter si bien l'épée de la France. Il y a 4 Don Rémy le long de la Meuse, dans un cercle de 10 lieues, 3 du diocèse de Toul, une de celui de Langres. Probablement, ces 4 villages étaient, dans les temps plus anciens, des domaines de l'abbaye de Saint-Rémy de Reims. Nos grandes abbayes avaient, comme on sait, dans les temps carolingiens, des possessions bien plus éloignées, jusqu'en Provence, jusqu'en Allemagne, jusqu'en Angleterre. cette ligne de la Meuse et la marge de Lorraine et de Champagne, tant disputée entre le roi et le duc. Le père de Jeanne d'Arc, était un digne champenois. Jeanne tint sans doute de son père. Elle n'eut point la prêter Lorraine, mais bien plutôt la douceur champenoise, la naïveté mêlée de sens et de finesse, comme vous la trouvez dans Joinville. Quelques siècles plus tôt, Jeanne serait née serve de l'abbaye de Saint-Rémy, un siècle auparavant, serve du sire de Joinville. Il était en effet seigneur de la ville de Vaucouleurs, dont le village de Domrémy dépendait. Mais en 1335, le roi obligea les Joinville de lui céder Vaucouleurs. C'était alors le grand passage de la Champagne à la Lorraine, la droite route d'Allemagne, non seulement la route d'Allemagne, mais aussi celle des bords de la Meuse, la croix des routes. C'était encore, pour ainsi dire, la frontière des partis. Il y avait près de Domrémy un dernier village du parti bourguignon, tout le reste était pour Charles VII. Cette marge de Lorraine et de Champagne avait en tout temps cruellement souffert de la guerre. Longue guerre entre l'Est et l'Ouest, entre le roi et le duc, pour la possession de Neuchâteau et des places voisines, puis guerre du Nord au Sud entre les Bourguignons et les Armagnacs. Le souvenir de ces guerres sans pitié n'a pu s'effacer jamais. Pour montrer la guerre encore près de Neuchâteau, un arbre antique au nom sinistre, dont les branches avaient sans doute porté bien des fruits humains, le chêne des partisans. Les pauvres gens des marches avaient l'honneur d'être sujets directs du roi, c'est-à-dire qu'au fond, ils n'étaient à personne, n'étaient appuyés ni ménagés de personne, qu'ils n'avaient de seigneur, de protecteur que Dieu. Les populations sont sérieuses dans une telle situation. Elles savent qu'elles n'ont à compter sur rien, ni sur les biens, ni sur la vie. Et le labour et le soldat moissonnent. Nulle part, le laboureur ne s'inquiète davantage des affaires du pays. Personne n'y a plus d'intérêt. Il en sent si rudement les moindres contre-coups. Il s'informe, il tâche de savoir, de prévoir. Du reste, il est résigné, quoi qu'il arrive. Il s'attend à tout. Il est patient et brave. Les femmes eux-mêmes le deviennent. Il faut bien qu'elles le soient parmi tous ces soldats, sinon pour leur vie, au moins pour leur honneur, comme la belle et robuste Dorothée de Goethe. Jeanne était la troisième fille d'un laboureur, Jacques d'Arc, ou d'Arc avec apostrophe, et d'Isabelle Romée. Elle eut deux marraines, dont l'une s'appelait Jeanne, l'autre Sibylle. Le fils aîné avait été nommé Jacques, un autre Pierre. Les pieux parents donnèrent à l'une de leurs filles le nom plus élevé de Saint-Jean. Tandis que les autres enfants allaient avec le père travailler aux champs ou garder les bêtes, la mère tint Jeanne près d'elle, l'occupant à coudre ou à filer. Elle n'apprit ni à lire ni à écrire, mais elle sut tout ce que savait sa mère des choses saintes. Elle reçut sa religion, non comme une leçon, une cérémonie, mais dans la forme populaire et naïve, d'une belle histoire de veillée, comme la foi simple d'une mère. Ce que nous recevons ainsi avec le sang et le lait, c'est chose vivante et la vie même. Nous avons, sur la piété de Jeanne, un touchant témoignage, celui de son ami d'enfance, de son ami de cœur, Omette, plus jeune de 3 ou 4 ans. Que de fois, dit-elle, j'ai été chez son père et couché avec elle de bonne amitié. C'était une bien bonne fille, simple et douce. Elle allait volontiers à l'église et au Saint-Lieu. Elle filait, faisait le ménage, comme font les autres filles. Elle se confessait souvent. Elle rougissait quand on lui disait qu'elle était trop dévote, qu'elle allait trop à l'église. Un laboureur, appelé aussi en témoignage, ajoute qu'elle soignait les malades, donnait aux pauvres. Je le sais bien, dit-il, j'étais enfant alors, et c'est elle qui m'a soigné. Tout le monde connaissait sa charité, sa piété. Ils voyaient bien que c'était la meilleure fille du village. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'en elle, la vie d'en haut absorba toujours l'autre et en supprima le développement vulgaire. Elle eut, d'âme et de corps, ce don divin de rester enfant. Elle grandit, devint forte et belle, mais elle ignora toujours les misères physiques de la femme. Elles lui furent épargnées au profit de la pensée et de l'inspiration religieuse. Née sous les murs même de l'église, bercée du son des cloches et nourrie de légendes, elle fut une légende elle-même, rapide et pure, de la naissance à la mort. Elle fut une légende vivante. Mais la force de vie, exaltée et concentrée, n'en devint pas moins créatrice. La jeune fille, à son insu, créait, pour ainsi parler, et réalisait ses propres idées. Elle en faisait des êtres. Elle leur communiquait, du trésor de sa vie virginale, une splendide et toute-puissante existence à faire pâlir les misérables réalités de ce monde. Si poésie veut dire création, c'est là sans doute la poésie suprême. Il faut savoir par quel degré elle en va jusque-là, de quel humble point de départ. Humble à la vérité, mais déjà poétique. Son village était à deux pas des grandes forêts des Vosges. De la porte de la maison de son père, elle voyait le vieux bois des chênes. Les fées hantaient ce bois. Elles aimaient surtout une certaine fontaine près d'un grand être qu'on nommait l'arbre des fées, des dames. Les petits paysans y suspendaient des couronnes, y chantaient. Ces anciennes dames et maîtresses des forêts ne pouvaient plus, disait-on, se rassembler à la fontaine. Elles en avaient été exclues pour leur péché. Cependant, l'église se défiait toujours des vieilles divinités locales. Le curé, pour les chasser, allait chaque année dire une messe à la fontaine. Jeanne naquit parmi ces légendes dans ses rêveries populaires. Mais le pays offrait d'à côté une toute autre poésie, celle-ci sauvage, atroce, trop réelle, hélas, la poésie de la guerre. La guerre. Ce seul mot dit toutes les émotions. Ce n'est pas tous les jours, sans doute, l'assaut et le pillage, mais bien plutôt l'attente, le tocsin, le réveil en sursaut, et dans la plaine au loin, le rouge sombre de l'incendie. État terrible, mais poétique. Les plus prosaïques des hommes, les Écossais du bas pays, se sont trouvés poètes parmi les hasards du border, de ce désert sinistre, qui semblent encore maudits, bien ils ont pourtant germé les ballades sauvages et les vivaces fleurs. Jeanne eut sa part dans ses romanesques aventures. Elle vit arriver les pauvres fugitifs. Elle aida la bonne fille à les recevoir. Elle leur cédait son lit à les coucher au grenier. Ses parents furent aussi une fois obligés de s'enfuir. Puis, quand le flot des brigands fut passé, la famille revint et retrouva le village saccagé, la maison dévastée, l'église incendiée. Elle sut ainsi ce que c'est que la guerre. Elle comprit cet état antichrétien. Elle eut horreur de ce règne du diable où tout homme mourait au péché mortel. Elle se demanda si Dieu permettrait cela toujours, s'il ne mettrait pas un terme à ces misères, s'il n'enverrait pas un libérateur, comme il l'avait fait si souvent pour Israël, un Sédéon, une Judith. Elle savait que plus d'une femme avait sauvé le peuple de Dieu, que dès le commencement il avait été dit que la femme écraserait le serpent. Elle avait pu voir au portail des églises Sainte Marguerite avec Saint Michel foulant aux pieds le dragon. Si, comme tout le monde disait, la perte du royaume était l'œuvre d'une femme, d'une mère dénaturée, le salut pouvait bien venir d'une fille. C'est justement ce qu'annonçait une prophétie de Merlin. Cette prophétie, enrichie, modifiée selon les provinces, était devenue toute Lorraine dans le pays de Jeanne d'Arc. C'était une pucelle des marges de Lorraine qui devait sauver le royaume. La prophétie avait pris probablement cet embellissement par suite du mariage récent de René d'Anjou avec l'héritière du duché de Lorraine, qui en effet était très heureux pour la France. Un jour d'été, jour de jeûne, à midi, Jeanne, étant au jardin de son père, tout près de l'église, elle vit de ce côté une éblouissante lumière et entendit une voix. « Jeanne, sois bonne et sage enfant, va souvent à l'église. » La pauvre fille eut grand-peur. Une autre fois, elle entendit encore la voix, vit la clarté, mais dans cette clarté de noble figure dont l'une avait des ailes, elle semblait un sage prud'homme. Il lui dit, « Jeanne, va au secours du roi de France, et tu lui rendras son royaume. » Elle répondit, toute tremblante, « Mais messire, je ne suis qu'une pauvre fille, je ne saurais chevaucher ni conduire les hommes d'armes. » La voix répliqua, « Tu iras trouver monsieur de Baudricourt, capitaine de vos couleurs, il te fera mener au roi. Sainte Catherine et Sainte Marguerite viendront t'assister. » Elle resta stupéfaite et en larmes, comme si elle eût déjà vu sa destinée tout entière. Le prud'homme n'était pas moins que Saint-Michel, le sévère archange des jugements et des batailles. Il revint encore, lui rendit courage, il lui raconta la pitié qui était au royaume de France. Puis vinrent les blanches figures de saintes parmi d'innombrables lumières, la tête parée de riches couronnes, la voix douce et attendrissante à en pleurer. Mais Jeanne pleurait surtout quand les saintes et les anges la quittaient. « J'aurais bien voulu, dit-elle, que les anges m'eussent emportée. » Si elle pleurait dans un si grand bonheur, ce n'était pas sans raison. Quelque belles et glorieuses que fussent ses visions, sa vie dès lors avait changé. Elle, qui n'avait entendu jusque-là qu'une voix, celle de sa mère, dont la sienne était l'écho, elle entendait maintenant la puissante voix des anges. Et que voulait la voix céleste? Qu'elle délaissât cette mère, cette douce maison. Elle, qu'un seul mot déconcertait, il lui fallait aller parmi les hommes, parler aux hommes, aux soldats. Il fallait qu'elle quittât pour le monde, pour la guerre, ce petit jardin sous l'ombre de l'église, où elle n'entendait que les cloches et où les oiseaux mangeaient dans sa main. Car tel était l'attrait de douceur qui entourait la jeune sainte. Les animaux et les oiseaux du ciel venaient à elle, comme jadis au père du désert, dans la confiance de la paix de Dieu. Jeanne ne nous a rien dit de ce premier combat qu'elle soutint. Mais il est évident qu'il eut lieu et qu'il dura longtemps, puisqu'il s'écoula 5 années entre sa première vision et sa sortie de la maison paternelle. Les deux autorités, paternelle et céleste, commandaient des choses contraires. L'une voulait qu'elle restât dans l'obscurité, dans la modestie et le travail, et l'autre qu'elle partît et qu'elle sauvât le royaume. L'ange lui disait de prendre les armes, et le père, au rue des honnêtes paysans, jurait que si sa fille s'en allait avec les gens de guerre, il la noierait plutôt de ses propres mains. De part ou d'autre, il fallait qu'elle désobéît. Ce fut là, sans doute, son plus grand combat. Ce qu'elle soutint contre les Anglais ne devait être qu'un jeu à côté. Elle trouva dans sa famille non pas seulement résistance, mais tentation. On essaya de la marier dans l'espoir de la ramener aux idées qui semblaient plus raisonnables. Un jeune homme du village prétendit qu'étant petite, elle lui avait promis mariage. Et comme elle le niait, il la fit assigner devant le juge ecclésiastique de Toul. On pensait qu'elle n'oserait se défendre, qu'elle se laisserait plutôt condamner, mariée. Et au grand étonnement de tout le monde, elle alla à Toul, elle parut en justice, et elle parla, elle qui s'était toujours tue. Pour échapper à l'autorité de sa famille, il fallait qu'elle trouvât dans sa famille même quelqu'un qui la crût. C'était le plus difficile. Au défaut de son père, elle convertit son oncle à sa mission. Il la prit avec lui comme pour soigner sa femme en couche. Elle obtint de lui qu'il irait demander pour elle l'appui du sire de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs. L'homme de guerre reçut assez mal le paysan et lui dit qu'il n'y avait rien à faire, sinon de la ramener chez son père, bien souffletée. Elle ne se rebuta pas. Elle voulut partir et il fallut bien que son oncle l'accompagnât. C'était le moment décisif. Elle quittait pour toujours le village et la famille. Elle embrassa ses amis, surtout sa petite bonne amie Margette, qu'elle recommanda à Dieu. Mais pour sa grande amie et compagne Homette, celle qu'elle aimait le plus, elle aima mieux partir sans la voir. Elle arriva donc dans cette ville de Vaucouleurs, avec ses gros habits rouges de paysanne, et alla loger avec son oncle chez la femme d'un charron qui la prit en amitié. Elle se fit mener chez Baudricourt et lui dit avec fermeté qu'elle venait vers lui de la part de son seigneur pour qu'il mandât au dauphin de se bien maintenir et qu'il n'assignât point de bataille à ses ennemis parce que son seigneur lui donnerait secours dans la mi-carême. Le royaume n'appartenait pas au dauphin, mais à son seigneur. Toutefois, son seigneur voulait que le dauphin devînt roi et qu'il eût ce royaume en dépôt. Elle ajoutait que malgré les ennemis du dauphin, il serait fait roi et qu'elle le mènerait à sacrer. Le capitaine fut bien étonné. Il soupçonna qu'il y avait là quelque diablerie. Il consulta le curé, qui apparemment eut les mêmes doutes. Elle n'avait parlé de ses visions à aucun homme d'église. Le curé vint donc avec le capitaine dans la maison du charron. Il déploya son étole et adjura Jeanne de s'éloigner si elle était envoyée du mauvais esprit. Mais le peuple ne doutait point. Il était dans l'admiration. De toutes parts, on venait la voir. Un gentilhomme lui dit pour l'éprouver « Eh bien, mamie, il faut donc que le roi soit chassé et que nous devenions anglais. » Elle se plaignit à lui du refus de Baudricourt. « Cependant, dit-elle, avant qu'il soit la mi-carême, il faut que je sois devers le roi. Dussé-je pour m'y rendre, user mes jambes jusqu'aux genoux, car personne au monde, ni roi, ni duc, ni fille du roi d'Écosse, ne peuvent reprendre le royaume de France. » Il n'y a pour lui de secours que moi-même, quoique je m'asse mieux rester affilé près de ma pauvre mère, car ce n'est pas là mon ouvrage, mais il faut que j'aille et que je le fasse parce que mon seigneur le veut. Et quel est votre seigneur? C'est Dieu. Le gentilhomme fut touché. Il lui promit, par sa foi, la main dans la sienne, que sous la conduite de Dieu, il l'amènerait au roi. Un jeune gentilhomme se sentit aussi touché et déclara qu'il suivrait cette sainte fille. Il paraît que Baudricourt envoya demander l'autorisation du roi. En attendant, il la conduisit chez le duc de Lorraine, qui était malade et voulait la consulter. Le duc n'en tira rien que le conseil d'apaiser Dieu en se réconciliant avec sa femme. Néanmoins, il l'encouragea. De retour à Vaucouleurs, il y trouva un messager du roi qui l'autorisait à venir. La perte d'une nouvelle bataille décidait à essayer de tous les moyens. Elle avait annoncé le combat le jour même qu'il eut lieu. Les gens de vos couleurs, ne doutant point de sa mission, se cotisèrent pour l'équiper et lui acheter un cheval. Le capitaine ne lui donna qu'une épée. Elle eut encore à ce moment un obstacle à surmonter. Ses parents, instruits de son prochain départ, avaient failli en perdre le sens. Ils firent les derniers efforts pour la retenir. Ils ordonnèrent, ils menacèrent. Elle résista à cette dernière épreuve et leur fit écrire qu'elle les priait de lui pardonner. C'était un rude voyage et bien périlleux qu'elle entreprenait. Tout le pays était couru par les hommes d'armes de deux parties. Il n'y avait plus ni route ni pont. Les rivières étaient grosses. C'était au mois de février 1429. S'en aller ainsi avec 5 ou 6 hommes d'armes, il y avait de quoi faire trembler une fille. Une Anglaise, une Allemande ne s'y fût jamais risquée. L'indélicatesse d'une telle démarche lui fait horreur. Oh, celle-ci ne s'en émut pas. Elle était justement trop pure pour rien craindre de ce côté. Elle avait pris l'habit d'homme et elle ne le quitta plus. Cet habit serré, fortement attaché, était sa meilleure sauvegarde. Elle était pourtant jeune et belle, mais il y avait autour d'elle, pour ceux même qui la voyaient le plus près, une barrière de religion et de crainte. Le plus jeune des gentilshommes qui la conduisait déclare que, couchant près d'elle, il n'eut jamais l'ombre même d'une mauvaise pensée. Elle traversait avec une sérénité héroïque tout ce pays désert ou infesté de soldats. Ses compagnons regrettaient bien d'être partis avec elle. Quelques-uns pensaient que peut-être elle était sorcière. Puis ils avaient grande envie de l'abandonner. Pour elle, elle était tellement paisible qu'à chaque ville, elle voulait s'arrêter pour entendre la messe. « Ne craignez rien, disait-elle. Dieu me fait ma route, c'est pour cela que je suis née. » Et encore, « Mes frères de paradis me disent ce que j'ai à faire. » La cour de Charles VII était loin d'être unanime en faveur de la pucelle. Cette fille inspirée qui arrivait de Lorraine et que le duc de Lorraine avait encouragée ne pouvait manquer de fortifier près du roi le parti de la reine et de sa mère, le parti de Lorraine et d'Anjou. Une embuscade fut dressée à la pucelle à quelque distance de Chinon, et elle n'y échappa que par miracle. L'opposition était si forte contre elle que lorsqu'elle fut arrivée, le conseil discuta encore pendant 2 jours si le roi la verrait. Ses ennemis crurent ajourner l'affaire indéfiniment en faisant décider qu'on prendrait des informations dans son pays. Heureusement, elle avait aussi des amis, les 2 reines sans doute, et surtout le duc d'Alençon, qui, sorti récemment des mains des Anglais, était fort impatient de porter la guerre dans le nord pour recouvrer son duché. Les gens d'Orléans, à qui depuis le 12 février Dunois promettait ce merveilleux secours, envoyèrent au roi et réclamèrent la pucelle. Le roi la reçut enfin, et au milieu du plus grand appareil. On espérait apparemment qu'elle serait déconcertée. C'était le soir. 50 torches éclairaient la salle. Nombre de seigneurs, plus de 300 chevaliers, étaient réunis autour du roi. Tout le monde était curieux de voir la sorcière ou l'inspirer. La sorcière avait 18 ans, C'était une belle fille et fort désirable, assez grande de taille, la voix douce et pénétrante. Elle se présenta humblement, comme une pauvre petite bergerette, et démêla au premier coup d'un regard le roi qui s'était mêlé exprès à la foule des seigneurs, et quoiqu'il soutint d'abord qu'il n'était pas le roi, elle lui embrassa les genoux. Mais comme il n'était pas sacré, elle ne l'appelait que dauphin. « Gentil dauphin, dit-elle, j'ai nom Jeanne la Pucelle. Le roi des cieux vous mande pour moi que vous serez sacré et couronné en la ville de Reims, et vous serez lieutenant du roi des cieux qui est roi de France. » Le roi la prit alors à part un moment, et après l'entretien, tous deux changèrent de visage. Elle lui disait, comme elle l'a raconté depuis à son confesseur, « Je te dis de la part de Messire que tu es le vrai héritier de France et fils du roi. » Ce qui inspira encore l'étonnement à une sorte de crainte, c'est que la première prédiction qui lui échappa se vérifia à l'heure même. Un homme d'armes qui la vit et la trouva belle exprima brusquement son mauvais désir en jurant le nom de Dieu à la manière des soldats. « Hélas, dit-elle, tu le renies et tu es si près de ta mort ?» Il tomba à l'eau un moment après et se noya. Ses ennemis objectaient qu'elle pouvait savoir l'avenir, mais le savoir par inspiration du diable. On assembla 4 ou 5 évêques pour l'examiner. Ceux-ci, qui sans doute ne voulaient pas se compromettre avec les partis qui divisaient la cour, firent renvoyer l'examen à l'université de Poitiers. Il y avait dans cette grande ville université, parlement et une foule de gens habiles. L'archevêque de Reims, chancelier de France, président du conseil du roi, manda des docteurs, des professeurs en théologie, les uns prêtres, les autres moines, et les chargea d'examiner la pucelle. Les docteurs, introduits et placés dans une salle, la jeune fille alla s'asseoir au bout du banc et répondit à leurs questions. Elle raconta, avec une simplicité pleine de grandeur, les apparitions et les paroles des anges. La dominicaine lui fit une seule objection, mais elle était grave. « Jeanne, tu dis que Dieu veut délivrer le peuple de France. Si telle est sa volonté, il n'a pas besoin de gendarmes. » Elle ne se troubla point. « Oh mon Dieu, dit-elle, les gendarmes batailleront, et Dieu donnera la victoire. » Un autre se montra plus difficile à contenter. C'était un frère Séguin, limousin, professeur de théologie à l'université de Poitiers. « Bien aigre homme, dit la critique, comique. » Il lui demanda, dans son français limousin, quelle langue parlait donc cette prétendue voix céleste. Jeanne répondit avec un peu trop de vivacité, « Meilleure que la vôtre. » « Crois-tu en Dieu ? Dit le docteur en colère. « Eh bien, Dieu ne veut pas que l'on ajoute foi à tes paroles, à moins que tu ne te montres un signe. » Elle répondit, « Je ne suis point venue à Poitiers pour faire des signes ou miracles. Mon signe sera de faire lever le siège d'Orléans. Qu'on me donne des hommes d'armes, peu ou beaucoup, et j'irai. » Cependant, il en advint à Poitiers comme à vos couleurs. Sa sainteté éclata dans le peuple. En un moment, tout le monde fut pour elle. Les femmes, damoiselles et bourgeoises, allaient la voir chez la femme d'un avocat du Parlement, dans la maison dans laquelle elle logeait, et elles en revenaient tout émues. Les hommes eux-mêmes y allaient. Ses conseillers, ses avocats, ses vieux juges endurcis s'y laissaient mener sans y croire, et quand ils l'avaient entendue, ils pleuraient tout comme les femmes et disaient « Mais cette fille est envoyée de Dieu !» Les examinateurs allèrent la voir eux-mêmes avec l'écuyer du roi, et comme ils recommençaient leur éternel examen, lui faisant de doctes citations et lui prouvant par tous les auteurs sacrés qu'on ne devait pas la croire, « Écoutez, leur dit-elle, il y en a plus au livre de Dieu que dans les vôtres. Je ne sais ni A ni B, mais je viens de la part de Dieu pour faire lever le siège d'Orléans et sacrer le dauphin à Reims. Auparavant, il faut pourtant que j'écrive aux Anglais et que je les somme de partir. Dieu le veut ainsi. Avez-vous du papier, de l'encre ? Écrivez, je vais vous dicter. » À vous, Suffore, Classida, c'est la poule. Je vous somme de par le roi des cieux que vous alliez en Angleterre. » Ils écrivirent docilement. Elle avait pris possession de ses juges mêmes. Leur avis fut qu'on pouvait licitement employer la jeune fille. Elle reçut même réponse de l'archevêque d'Embrun, que l'on avait consulté. Le prélat rappelait que Dieu avait maintes fois révélé à des vierges, par exemple aux Sibylles, ce qu'il cachait aux hommes. Le démon ne pouvait faire pacte avec une vierge. Il fallait donc bien s'assurer si elle était vierge en effet. Ainsi la séance poussée à bout, ne pouvant ou ne voulant point s'expliquer sur la distinction délicate des hommes et des mauvaises révélations, la science servait établement des choses spirituelles au corps et faisait dépendre du féminin mystère cette grave question de l'esprit. Les docteurs, ne sachant que dire, les dames décidèrent. La bonne reine de Sicile, belle-mère du roi, s'acquitta avec quelques dames du ridicule examen à l'honneur de la pucelle. Des franciscains qu'on avait envoyés dans son pays aux informations avaient rapporté les meilleurs enseignements. Il n'y avait plus de temps à perdre. Orléans en criait au secours. Dunois envoyait coup sur coup. On équipa la pucelle, on lui forma une sorte de maison, on lui donna d'abord pour écuyer un brave chevalier d'âge mûr, Jean d'Aulon, qui était au comte de Dunois, et le plus honnête homme qu'il y ait parmi ses gens. Elle eut aussi un noble page, deux héros d'armes, un maître d'hôtel, deux valets. Son frère, Pierre d'Arc, vint la trouver et se joignit à ses gens. On lui donna pour confesseur Jean Pasquerel, frère ermite de Saint-Augustin. Ce fut une merveille pour les spectateurs de voir, la première fois, Jeanne d'Arc dans son armure blanche et sur son beau cheval noir, aux côtés une petite hache et l'épée de Sainte-Catherine. Elle avait fait chercher cette épée derrière l'autel de Sainte-Catherine de Fierbois, où on la trouva en effet. Elle portait à la main un étendard blanc fleurdelisé, sur lequel était Dieu avec le monde dans ses mains. À droite et à gauche, deux anges qui donnaient chacun une fleur de lys. « Je ne veux pas, disait-elle, me servir de mon épée pour tuer personne. » Elle ajoutait que, quoiqu'elle aimât son épée, elle aimait 40 fois plus son étendard. Comparons les deux parties au moment où elle fut envoyée à Orléans. Les Anglais s'étaient bien affaiblis dans ce long siège d'hiver. Après la mort de Salisbury, beaucoup d'hommes d'armes qu'il avait engagés se crurent libres et s'en allèrent. D'autre part, les Bourguignons avaient été rappelés par le duc de Bourgogne. Quand on força la première principale bastille des Anglais, dans laquelle s'étaient repliés les défenseurs de quelques autres bastilles, on y trouva 500 hommes. Il est probable qu'en tout ils étaient 2 ou 3 000. Sur ce petit nombre, tous n'étaient pas Anglais. Il y avait aussi quelques Français, dans lesquels les Anglais n'avaient pas sans doute grande confiance. S'ils avaient été réunis, cela eût fait un corps respectable, mais ils étaient divisés dans une douzaine de bastilles ou boulevards qui, pour la plupart, ne communiquaient pas entre eux. Cette disposition prouve que Talbot et les autres chefs anglais avaient eu jusque-là plus de bravoure et de bonheur que d'intelligence militaire. Il était évident que chacune de ces petites places isolées serait faible contre la grande et grosse ville qu'elle prétendait garder, et que cette nombreuse population, aguerrie par un long siège, finirait par assiéger les assiégeants. Quand on lit la liste formidable des capitaines qui se jetèrent dans Orléans, Lahire, Saint-Trailles, Gaucourt, Culan, Coarraze, Armagnac, Quand on voit qu'indépendamment des Bretons, du maréchal de Retz, des Gascons, du maréchal de Saint-Sever, le capitaine de Châteaudun, Florent Dillier, avait entraîné la noblesse du voisinage à cette courte expédition, la délivrance d'Orléans semble moins miraculeuse. Il faut dire pourtant qu'il manquait une chose pour que ces grandes forces agissent avec avantage, chose essentielle, indispensable, l'unité d'action. Dunois eût pu la donner s'il n'eût fallu pour cela que de l'adresse et de l'intelligence. Mais ce n'était pas assez. Il fallait une autorité, plus que l'autorité royale. Les capitaines du roi n'étaient pas habitués à obéir au roi. Pour réduire ces volontés sauvages, indomptables, il fallait Dieu même. Le Dieu de cet âge, c'était la Vierge, bien plus que le Christ. Il fallait la Vierge descendue sur terre, une Vierge populaire, jeune, belle, douce, hardie. La guerre avait changé les hommes en bêtes sauvages. Il fallait, de ces bêtes, refaire des hommes, des chrétiens, des sujets dociles. Grand et difficile changement. Quelques-uns de ces capitaines armagnacs étaient peut-être les hommes les plus féroces qui eussent jamais existé. Il suffit d'en nommer un dont le nom seul fait horreur, Gilles de Retz, l'original de la Barbe Bleue. Il restait pourtant une prise sur ces âmes qu'on pouvait saisir. Elles étaient sorties de l'humanité, de la nature, sans avoir pu se dégager entièrement de la religion. Les brigands, il est vrai, trouvaient moyen d'accommoder de la manière la plus bizarre la religion au brigandage. L'un d'eux, le Gascon Lahire, disait avec originalité « Oh, si Dieu se faisait homme d'armes, il serait pillard !» Et quand il allait au butin, il faisait sa petite prière gasconne, sans trop dire ce qu'il demandait, pensant bien que Dieu l'entendrait à demi-mot. « Sire Dieu, je te prie de faire pour Lahire ce que Lahire ferait pour toi, et si tu étais capitaine, et si Lahire était Dieu. » Ce fut un spectacle risible et touchant de voir la conversion subite des vieux brigands armagnacs. Ils ne s'amendèrent pas à demi. Lahire n'osait plus jurer. La pucelle eut compassion de la violence qu'il se faisait et lui permit de jurer par son bâton. Les diables se trouvaient l'air venus tout à coup de petits saints. Elle avait commencé par exiger qu'ils laissassent leur folle femme et se confessassent. Puis, dans la route, le long de la Loire, elle fit dresser un autel sous le ciel. Elle communia et ils communièrent. La beauté de la saison, le charme d'un printemps de Touraine, devait singulièrement ajouter à la puissance religieuse de la jeune fille. Eux-mêmes, ils avaient rajeuni. Ils s'étaient parfaitement oubliés. Ils se retrouvaient, comme en leurs belles années, pleins de bonne volonté et d'espoir, tout jeunes comme elle, tous enfants. Avec elle, ils commençaient de tout cœur une nouvelle vie. Où les menait-elle, ou peu leur importait. Il aurait suivi, non pas Orléans, mais tout aussi bien Jérusalem. Et il ne tenait qu'aux Anglais d'y venir aussi. Dans la lettre qu'elle leur écrivit, elle leur proposait gracieusement de se réunir, de s'en aller tous, Anglais et Français, délivrer le Saint-Sépulcre.